L'émission de Jean-Jacques Ibos, Espace Horizon Inaccessible.
Bonjour chers auditeurs.
Alors aujourd'hui nous allons aborder le lancement de l'émission avec la question suivante. Nous avons vu le mois dernier les lanceurs américains, russes et chinois. Où en sont les Européens?
Avec Ariane, nous avons vu que l'Europe ne voulait pas être dépendante des autres puissances. Mais Ariane n'est pas toute seule. L'ONERA, l'agence française, a en cours de développement un avion automatique, Space Rider, qui lancera un lanceur consommable. Et en Espagne, la société 02 Infinity propose l'utilisation de ballons stratosphériques Blue Star pour lancement de petites charges. Et il y a bien d'autres pays qui se sont lancés dans cette aventure. En Australie, Rocket Lab a développé la fusée Electron, qui depuis 2006 prévoit l'envoi de petits satellites au tarif préférentiel de 5 millions de dollars par vol. 3 étages, dont le dernier est réallumable. Rocket Lab, la propriété du néo-zélandais Peter Beck, a investi 300 millions de dollars dans cette aventure. Il a fait plusieurs tests. Le premier de ce test, en mai 2017, avec un échec au deuxième étage. Un deuxième test, Steel Testing, succès, en janvier 2018. Il a pu envoyer 3 nanosatellites, ainsi qu'une structure déployable en fibre de carbone, Humanity Star, dont les 76 faces reflètent la lumière du soleil. Son premier lancement commercial, It's a Business Time, a eu lieu le 11 novembre 2018, en mettant 7 nanosatellites sur orbite basse. Rocket Lab a fait 16 lancements en 2019 et est en train de construire un second site de lancement en Virginie. Et il prévoit aussi de récupérer des étages par hélicoptère. Autre pays, le Japon, avec la société Epsilon, qui a lancé en 2013, 2016 et 2017 des satellites. Et en janvier 2018, elle a mis sur orbite 7 satellites d'un seul coup. L'un d'entre eux, Allais 1, réalisera le largage à 400 km d'altitude au printemps 2020 de 400 billes métalliques d'un centimètre de diamètre au-dessus d'Hiroshima et de la mer de Seto, créant une pluie d'étoiles filantes artificielles pendant une dizaine de secondes, les billes allant se consumer à l'altitude de 60 km. Autre société, chinoise cette fois-ci, OneSpace, qui veut proposer des satellisations de l'ordre de 200 kg en orbite basse pour un prix de 10 000 dollars le kilo, soit 2 millions de dollars le tir. Presque donné. Il a fait voler son premier exemplaire de fusée Chongqing OSX-1 le 16 mai 2018, atteignant 273 km d'altitude et presque Mach 6. La société se dimensionne pour effectuer 50 vols sur les 2 prochaines années. Mais, comme rien n'est jamais simple dans l'espace, le premier essai de son lanceur, le 27 mars 2019, a été un échec. Autre société privée chinoise, eSpace, elle a réussi le 25 juillet 2019 à mettre sur orbite son satellite, Hyperbola 1. Et enfin, la dernière société privée chinoise, vous voyez que les Chines, il n'y a pas que les fusées gouvernementales qui marchent, a placé le 17 août, avec sa fusée SDN, Smart Dragon 1, 3 satellites en orbite polaire. Je voudrais vous faire une petite anecdote sur la précision des tirs. Toutes ces fusées actuelles ont une précision fantastique. Elles sont capables de contrôler les vitesses finales à 1 mètre seconde près, sachant qu'elle est comprise entre 8000 mètres par seconde pour les satellites et 11000 mètres par seconde pour les stations interplanétaires. Pour ce faire, les fusées et les engins spatiaux sont équipés de plusieurs capteurs qui transmettent leurs signaux aux stations à terre. Plusieurs centaines de données sont émises et enregistrées chaque seconde par la fusée et par son passager. Et par la suite, le vaisseau spatial continue à émettre ses mesures, soit pour faire un bilan de ses conditions de fonctionnement, soit pour transmettre les données collectées par les instruments scientifiques embarqués pour la mission. Par exemple, un petit peu plus loin de nous, maintenant, la sonde Mariner 4 a émis en un mois 10 millions de mesures sur l'espace interplanétaire. Et, très très proche de nous, l'exploitation des données envoyées par les sondes actuelles, telles que Cassini, va demander des années d'études. Les Soviétiques ont en projet de remplacer leur carburant de fusée, l'hydrazine, qui est très polluant et contient des composés toxiques, par un nouveau carburant beaucoup plus vert, qui s'appelle le 1,1,4-tétraméthyl-2. Bon, ça, c'est pour les chimistes. Et un nouveau projet de propulsion électromagnétique est en développement aux États-Unis, financé par la NASA. Il utilisera le principe du magnétron, soit un faisceau de micro-ondes piégé dans un espace clos. Si les multiples problèmes techniques sont résolus un jour, il permettrait de rejoindre Mars en 70 jours, au lieu de 6 mois avec les moyens actuels.
Autre question, tous ces lanceurs n'envoient pas que des satellites dans l'espace, et que deviennent-ils alors une fois utilisés? Est-ce qu'ils restent autour de la Terre?
Bon, évidemment, on ne lance pas que des satellites. Toutes ces magnifiques fusées lancent aussi des engins beaucoup plus gros, avec d'autres objectifs. Par exemple, les stations spatiales. Les scientifiques se devaient de répondre à de très nombreuses questions liées à la capacité de l'homme à supporter un long voyage dans le vide. Pour rejoindre un jour Mars, ou plus tard, pour sortir du système solaire, il faut pouvoir rester dans l'espace beaucoup plus longtemps que pour un vol autour de la Terre ou vers la Lune. Lorsque Mars est au plus près de la Terre, le voyage aller dure 6 mois. Il faut rester 18 mois sur place pour attendre une configuration de retour favorable, et on rajoute 6 mois pour rentrer sur Terre, soit 30 mois en apesanteur nulle ou réduite, exposé à l'environnement spatial et au rayonnement. La seule façon de pouvoir répondre à ces questions était d'établir une base permanente en orbite pour étudier les aspects biologiques, médicaux, chimiques, métallurgiques sur les hommes et les matériels de ces séjours en apesanteur, dans un environnement soumis à de fortes radiations solaires, voire aux conséquences des éruptions solaires. La suite du programme Apollo prévoyait la construction d'une dizaine de stations spatiales. Mais le développement de satellites de plus en plus performants, accomplissant des tâches sans intervention humaine, fit que ce nombre fut ramené à 2 au début des années 70. Il fut projeté la création d'une station spatiale entièrement militaire, le Manned Orbiting Laboratory, mais cette station militaire a été par la suite abandonnée. Le 19 avril 71 voit la satellisation par les Soviétiques de la toute première station orbitale, Salyut 1. Salyut, c'est salut ou salve en russe. Un premier essai d'amarrage d'un vaisseau habité échoue, et 3 mois plus tard, 3 cosmonautes seront les premiers hommes à habiter dans une station spatiale. Mais malheureusement, 23 jours plus tard, lors du vol de retour, leur vaisseau Soyouz 11 se dépressurise, entraînant la mort des 3 occupants. La station Salyut 1 ne sera plus habitée et sera désorbitée après 175 jours de vol. Selon leurs affectations, les stations soviétiques s'appelleront Salyut, programme civil, ou Almaz, programme militaire, desservies par des vaisseaux Soyouz avec équipage, ou Progress, des vaisseaux cargo. Il y aura 7 stations Salyut, les 2 dernières seront Salyut 6 en septembre 1977, et Salyut 7, en avril 82. Ils abriteront des équipages russes, mais aussi de plusieurs stations partenaires de l'Union soviétique, ainsi que le français Jean-Loup Chrétien, du 25 juin au 2 juillet 1982. Les Américains, évidemment, ne sont pas restés les bras croisés, ils ont mis en orbite Skylab. Construite à partir du dernier étage d'une fusée Saturne 5 non utilisée, cette première station spatiale américaine est lancée le 16 mai 1973. Cet étage a été raménagé, cet étage qui n'était qu'un réservoir avec un moteur. Cet étage a été réaménagé par un designer de renom, Roman Leoi, pour le rendre plus habitable possible, comme par exemple des chambres individuelles et l'installation d'une douche. À utiliser avec parcimonie, car ramener un litre d'eau en orbite coûte 10 000 dollars. Mais de nombreux incidents sont arrivés au décollage. Un de ses panneaux solaires est arraché, un autre s'est coincé, un panneau d'isolation est abîmé. Des réparations sont effectuées par le premier équipage et elle sera occupée à trois reprises par trois astronautes entre 1973 et 1974 pour un total de 171 jours. Par rapport aux exiguës cabines spatiales, c'est un confort extraordinaire qui est offert aux occupants. Ils y testeront même à l'intérieur de la station un fauteuil spatial. De nombreuses expériences médicales permettront de mieux comprendre les problèmes liés à l'environnement spatial pour des vols de longue durée. Et le Soleil sera observé par les 8 télescopes embarqués, particulièrement les protubérances et les éruptions de matière et d'énergie qui perturbent violemment, qui peuvent perturber très très violemment l'atmosphère terrestre. Elle rentrera, cette station, dans l'atmosphère en 1979 à cause justement d'une violente tempête solaire qui perturbe son orbite. Mais le retard pris par la navette spatiale, dont on va reparler, qui devait permettre de rehausser cette station et d'augmenter sa durée de vie, n'a pas permis cette opération de rehausse de l'orbite. Le programme spatial aura coûté au total 2,5 milliards de dollars. Les Russes, ensuite, mettent sur orbite, le 19 février 1986, la station Mir. Mir, ça veut dire la paix en russe. Station modulaire, pouvant abriter de 3 à 6 cosmonautes, elle est occupée un mois après son lancement. Les cosmonautes aménageant Mir avec des instruments sortis de Salyut. Sera installé dans Mir en 87 un module d'observation de la Terre, Quant 1, puis le même, Quant 2, une évolution, en 1989, pour la recherche astrophysique. Galaxies, quasars, étoiles à neutrons. Un module de fabrication de cristaux, Cristal, en 1990, et deux modules pour la télédétection, Spectre et Prirodda, en 1995 et 1996. Cette station accueillera 30 équipages, dont 5 spationautes français, et sera ravitaillée 64 fois par les cargos russes automatiques Progress. Mais la vie dans l'espace n'est pas un long fleuve tranquille, le moindre incident pouvant avoir des conséquences majeures. Sur Mir, en 1997, un début d'incendie difficilement maîtrisé obligera les 6 cosmonautes à porter pendant 48 heures des masques à oxygène. Et lors d'un ravitaillement par un cargo Progress, celui-ci, bien qu'étant piloté depuis la station, percute le module Spectre et arrache un des panneaux solaires, entraînant aussi une fuite d'oxygène. À bord, l'Américain Mike Fowle et ses collègues russes vont travailler pendant des heures pour rétablir la puissance électrique. Mir restera vide de 1999 à mars 2000. Plusieurs programmes de réutilisation de la station sont imaginés, parfois montés par des sociétés privées, russes ou américaines, et un équipage est envoyé pour la réactiver. Mais cela ne débouchera pas sur des réalisations, et Mir sera désorbité après plus de 83 000 orbites. Sa chute sera contrôlée grâce au moteur du cargo Progress, et elle plongera dans le Pacifique le 23 mars 2001 au large des îles Fidji. La course à l'espace russe-américaine prendra un nouveau tournant en 1988, quand Mikhail Gorbatchev annonce la fin de la compétition URSS. En effet, le président Ronald Reagan avait lancé le programme technologique d'initiative de défense stratégique, plus connu à l'époque sous le terme de guerre des étoiles, visant à assurer la suprématie américaine dans l'espace. Cette stratégie a été inventée par Edward Teller, immigré de Hongrie, fervent anticommuniste et inventeur de la bombe à neutrons. Ronald Reagan voulait promouvoir le modèle américain contre ce qu'il considère lui comme l'empire du mal. Les soviétiques ont englouti des fortunes pour essayer de se maintenir au même niveau, sans atteindre les objectifs fixés. Aussi, le président Gorbatchev annonça à l'ONU qu'il allait convertir les usines du complexe industriel militaro-industriel dédié à cette activité en usines produisant des biens de consommation, signant ainsi la fin de la guerre froide, gagnée par les Américains sans tirer un coup de feu. Comme James le demandait, qu'est-ce qui se passe pour ces éléments qui sont lancés en orbite? Évidemment, tous n'y restent pas. Sur les 6600 satellites lancés depuis 1957, seuls 1100 sont toujours en activité. 240 ont explosé en orbite et plusieurs essais de satellites tueurs ont géré une énorme quantité de déchets. Les débris dans l'espace commencent à être un véritable problème et un danger absolu. Car avec une vitesse de 35 000 à 40 000 km/h, un objet d'un centimètre de diamètre a la puissance destructive d'une grenade. Et il y en a plus de 700 000 en orbite, donc 29 000 de la taille d'une cuillère à café et plus de 23 000 gros objets circulant en orbite autour de la Terre, soit près de 8400 tonnes de matériel, 45% d'entre eux étant d'origine américaine. Un organisme américain, le NORAD, North American Aerospace Defense Command, est chargé de surveiller tous les objets en orbite et de calculer leur trajectoire. C'est un risque majeur pour les astronautes, par exemple lors de sorties extravéhiculaires. Et l'ISS est obligé de modifier sa position, l'ISS c'est l'International Space Station dont on va reparler, est obligé de modifier sa position lorsque l'organisme chargé de surveiller tous ces objets lui signale l'arrivée d'un débris sur sa trajectoire. Mais la NASA évite de déplacer la station plus de 6 fois par an, car cela consomme énormément de carburant. La NASA estime à une chance ou un risque sur 60 par décennie de risque de perdre un équipage à cause d'une collision avec une micrométéorite ou un débris orbital. Ce qui, vous voyez, est loin d'être négligeable. De nombreux objets, évidemment, retombent sur Terre, mais tous les éléments de fusée ou de satellites ne se consument pas dans l'atmosphère. Dès le début des lancements dans l'espace, plus de 6000 engins sont retombés au petit bonheur. Et chaque année, il y a environ 100 tonnes de matériel qui retombent au sol. Bon, heureusement, la majorité de ces rentrées est contrôlée et elles sont dirigées vers une zone du Pacifique Sud appelée Point Nemo, une bande de 7... Une bande de 2000 km de long à plus de 2700 km de l'île la plus proche au large de la pointe du Chili. Mais il arrive que certains tombent sur la terre ferme. En 65, une sphère de titane est retrouvée dans le désert australien. C'était un réservoir d'eau de la fusée qui avait lancé Gemini 5. Toujours en Australie, c'est la ville d'Espérance qui a accueilli des débris de Skylab en 74. Plus grave, ce qui aurait pu être beaucoup plus grave, en 1978, le réacteur nucléaire du satellite russe Cosmos 954 tombe dans une région désertique du Grand Nord canadien, polluant la zone sur des centaines de kilomètres carrés.
On dirait qu'il y a un satellite qui va rentrer dans le studio.
Oui, c'est ça. Mais je l'ai intercepté, c'est bon. En 1997, une habitante de Tulsa, aux États-Unis, Lotte Williams, est heurtée à l'épaule par un morceau ne pesant pas plus lourd qu'une canette vide, provenant d'une fusée Delta 2 lancée un an plus tôt. C'est aujourd'hui la seule victime de ce genre de mésaventure. La NASA a calculé que le risque d'être atteint par un objet provenant d'un lancement est un million de fois plus faible que celui de se faire frapper par la foudre. En janvier 1978, le booster d'une fusée Long March 3 est retombé à quelques centaines de mètres d'une ville chinoise. Et en février, c'est un bâtiment, heureusement vide, qui a été complètement détruit par la chute d'un autre booster. Et encore plus près de nous, en mars 2019, un autre booster est tombé sur une maison à 700 km du site de lancement en y mettant le feu. Heureusement, dans tous ces cas, il n'y a pas eu de blessés. Les constructeurs de satellites sont donc aujourd'hui maintenant obligés de prévoir un système de désorbitage pour libérer la place sur orbite. En effet, même plusieurs années après leur lancement, des engins que l'on considérait sans risque peuvent devenir dangereux. Le 30 août 2018, le réservoir d'une fusée Atlas V, lancée en 2014, a explosé en orbite, créant près de 500 nouveaux débris. Et pour larguer un satellite, au lieu d'utiliser des boulons explosifs, comme on faisait jusqu'à présent, le satellite est attaché au lanceur par une sangle qui reste solidaire du lanceur après sa libération. Lanceur qui est désorbité va se consumer dans l'atmosphère. De nombreux projets de nettoyage de l'espace sont dans les ordinateurs des bureaux d'études, mais aucun n'est vraiment opérationnel. Un satellite européen, Remove Debris, a projeté le 16 septembre 2018 un filet sur un nanosatellite qu'il avait largué précédemment, qui, volant à quelques mètres de lui, pour tester une méthode de récupération et de retour de débris dans l'atmosphère. Le satellite capturé et son filet ont été précipités dans l'atmosphère pour leur destruction. Un deuxième satellite, lui aussi largué par le satellite principal, a permis de valider les moyens de repérage, un radar et une caméra thermique. Et le 9 février 2019, c'est un harpon qui a été envoyé sur un panneau tenu au bout d'une perche. Alors, relié à un filin, le harpon et sa prise ont été tirés vers le satellite principal, puis l'ensemble a été ralenti grâce à une voile de freinage de 3 mètres sur 3, afin que tout ceci soit désorbité dans les deux années à venir.
Petite pause musicale, tu nous proposes Clint Mansell, Mass Effect. Écoutez, l'effet que ça fait, c'est pas mal. Allez, après la pause musicale, je vous rappelle Clint Mansell, Mass Effect, très beau morceau de musique. La question qui me vient à l'esprit, on a beaucoup entendu parler des navettes spatiales. Mais c'est quoi une navette spatiale ?
Le concept de fusée à plusieurs étages, chacun se détachant de l'ensemble après avoir épuisé son carburant et retombant dans l'atmosphère pour y brûler, s'il est techniquement le meilleur, est loin d'être économique. C'est un peu comme si, à chaque vol commercial, on jetait l'avion qui avait transporté les passagers. Aussi, les ingénieurs de l'espace ont imaginé de réutiliser tout ou partie du vaisseau spatial. La NASA a développé un vaisseau, le STS, Space Transportation System, de la forme d'un avion, l'orbiteur, équipé d'un propulseur à propergol liquide, flanqué d'un réservoir qui alimente les trois moteurs à hydrogène et oxygène liquide de l'orbiteur, et de deux accélérateurs récupérables, les boosters. Seul ce réservoir est consommé à chaque mission. Les boosters à poudre, de 2 fois 1300 tonnes de poussée, eux, se séparent de la navette après avoir épuisé leur combustible, et se posent sous parachute dans l'océan. Remis en condition de vol, ils peuvent à nouveau servir pour un autre vol. La poussée des trois moteurs et des deux boosters atteint 35 millions de newtons. La navette, quant à elle, après ses missions en orbite, rentre dans l'atmosphère à 28 500 km/h et revient se poser sur une piste en planant comme un avion. Si la piste principale était sur la base de Cap Kennedy, plusieurs pistes utilisables en cas d'urgence étaient prévues tout autour du monde, dont celle de la base militaire d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Après test et reconditionnement, la navette, rééquipée d'un nouveau réservoir et de deux boosters éventuellement récupérés, pouvait repartir vers l'orbite terrestre. L'objectif était de diviser d'un facteur significatif le coût d'une mise sur orbite. Mesurant 56 mètres de haut, pesant 2000 tonnes, elle peut emporter 7 astronautes et transporter 30 tonnes de fret, ou des satellites à mettre sur orbite. Son volume offre un confort jusqu'alors inconnu à ses occupants, soit une cuisine et une salle de bain. De plus, ses larges hublots permettent d'extraordinaires vues sur la Terre et l'espace. Les conditions de vol, en particulier le décollage, seront bien moins difficiles que sur les vols classiques, offrant à des scientifiques moins entraînés la possibilité d'aller mener leurs expériences en orbite, en les emmenant presque confortablement à bord de la Station Spatiale Internationale. Karen débute de cette navette et la desserte du grand projet américain, la fameuse Station Spatiale Internationale, qui va demander 10 dizaines de vols pour sa construction, et des vols en continu pour sa desserte, amenant et ramenant les équipages, apportant vivres et combustibles aux occupants. Le programme navette démarre par un prototype Enterprise, du nom du vaisseau de la série Star Trek, qui valide le transport sur le Boeing 747 porteur et fera des vols libres entre août et octobre 1977, testant les procédures d'approche et d'atterrissage. Cette navette n'était pas destinée à aller dans l'espace. Le 12 avril 1981, le premier orbiteur de série du programme spatiale américaine, Columbia, décolle de Cap Kennedy, piloté par le vétéran John Young. Pour cette première mission, la navette passera 2 jours dans l'espace avec 3 astronautes, faisant 37 révolutions. Pour le monde aéronautique, ce n'est une nouvelle page, porteur d'espoir de vol à coût réduit, venait de s'ouvrir ce jour-là. John Young a déclaré avant le vol: « Toute personne assise au sommet du plus gros système du monde, alimenté en hydrogène et oxygène liquide, et qui n'est pas un peu inquiète, ne comprend pas pleinement la situation. » Humour, bien sûr, mais ô combien prémonitoire. Le programme, qui a traîné en longueur, a fait l'objet de nombreuses moqueries de la part du public américain. La navette a été surnommée le canard boiteux, la brique volante, le citron spatial de l'Amérique, et enfin, l'avion qui ne s'est pas volé. Mais le président des États-Unis, Ronald Reagan, déclara au retour de la première mission: « Grâce à vous, nous sommes devenus des géants. » Il avait été prévu 4 navettes au total. Columbia, à premier vol en 1981, Challenger, 82, Discovery, 84 et Atlantis, 85, immatriculé OV-101 à OV-104, OV pour Orbital Vehicle, capable chacune d'effectuer 100 de vols, soit quasiment 1 vol par semaine pour l'ensemble de la flotte, chaque navette devant pouvoir repartir, réviser et réparer, préparer pour une nouvelle mission, chaque mois. En 1983, John Young, de nouveau avec Columbia, emportera dans sa soute pour la première fois le laboratoire européen Space Lab, qui reste amarré à la navette. Les astronautes habitent dans la navette et rejoignent le laboratoire pour y travailler. Les vols avec Space Lab se poursuivront jusqu'en 1998, totalisant 215 vols à bord des différentes navettes sans aucun incident. La plus forte utilisation de navettes aura été pendant l'été 1985, au cours de laquelle les 3 navettes en utilisation feront au total 9 vols, passant 54 jours dans l'espace. Mais on est déjà très loin des objectifs initiaux. Les missions des navettes américaines ne se limiteront pas à la desserte de la Station Spatiale Internationale. Elles vont servir aussi de dépanneuses pour des satellites en orbite. Et en mai 1999, les astronautes iront récupérer sur orbite le satellite Intelsat 6, qui était tombé en panne. Il sera réparé et remis sur orbite. Pour leur sortie dans l'espace, les astronautes occidentaux vont utiliser une nouvelle combinaison spatiale, l'EMU. L'histoire des navettes est intimement liée à celle du télescope spatial orbital Hubble. Pas moins de 6 missions lui auront été consacrées. Il est mis à poste le 24 avril 1990 par la navette Discovery, mais les premières images envoyées par Hubble, relayées par un satellite TDRS, ont se rendu compte qu'il souffrait d'une légère myopie, due à un défaut de 2,2 microns, soit 1/50 de l'épaisseur d'un cheveu, lors du polissage de la courbure du miroir. Aussi, le 2 décembre 1993, la navette Endeavour vient corriger la vue du télescope Hubble au moyen de 5 sorties extravéhiculaires. Le télescope y a été ramené dans la soute de la navette par le bras canadien Canadarm. Un dispositif optique correctif est installé dans une biais du télescope. En février 1997, Discovery amène une mission de maintenance pour moderniser ses équipements scientifiques et réparer son isolation thermique, l'équipe faisant aussi 5 missions extravéhiculaires. Ces 6 gyroscopes, qui tournent quand même à 19 000 tours par minute, tombant en panne les uns après les autres, compromettent sa capacité à pointer ses cibles. Aussi, Discovery, encore elle, revient vers Hubble le 22 décembre 1999, dédoublant la mission prévue. Et 3 EVAs, donc sorties extravéhiculaires, sont nécessaires pour effectuer les remplacements. C'est un Français, Jean-François Clairvoy, qui sera aux commandes du bras manipulateur pour cette mission très précise, où le télescope se trouve à moins de 3 mètres de la navette, l'ensemble circulant à 28 000 km/h autour de la Terre. Petite anecdote, pour ce vol, la société Comtesse du Barry, qui fabrique des conserves de qualité, a préparé des produits adaptés à la dégustation dans l'espace. Et ces produits sont toujours proposés à la Cité de l'Espace, à Toulouse. Le remplacement des panneaux solaires et l'installation d'une caméra infrarouge est effectué par la mission STS-109 en mars 2002. Et enfin, une cinquième mission, STS-125, installe une caméra à grand champ ainsi qu'un système d'amarrage pour un dispositif de désorbitage sur lequel un engin robotisé ira s'accrocher pour ramener Hubble dans les couches denses de l'atmosphère où il se consumera. Il faut noter qu'au début du programme, la NASA prévoyait d'aller récupérer le télescope avec une navette et de l'exposer dans un musée. Malheureusement, les déboires de la navette ont annulé ce beau projet. Au total, la maintenance de Hubble aura nécessité 5 missions de navette, 23 sorties dans l'espace, soit 165 heures passées en dehors des navettes. La navette ayant rendu les vols moins difficiles à supporter, la NASA mène en octobre 1998 une opération de com, faire revoler un vétéran. Et pas n'importe quel, John Younglen, le premier à avoir tourné autour de la Terre en 1962 à bord de Mercury. Il s'envole à bord de Discovery et réalise au cours des 5 jours de vol plusieurs examens médicaux en orbite pour le compte de l'Institut National du Vieillissement américain. John Glenn est décédé le 8 octobre 2016, il avait 95 ans. Un photographe irlandais, Matt Lurey, a entrepris de coloriser des images de la NASA, qui est prise à l'époque en noir et blanc. Une des 12 premières photos traitées est celle de John Glenn dans sa tenue d'astronaute Gemini. Le cinéma a aussi mis en scène des anciens. Dans un film réalisé en 2000, Space Cowboy, une équipe d'anciens astronautes américains est envoyée en orbite car ils sont les seuls capables de réparer un satellite soviétique porteur de missiles équipés de bombes atomiques pointés sur les États-Unis. Sur le plan financier, les lancements de navettes n'ont jamais permis de faire baisser les coûts au niveau prévu par les constructeurs. Chaque vol coûtera au final 1,5 milliard de dollars, très 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 loin des objectifs de réduction fixés. Et la NASA paiera la différence, car les contrats signés avec les opérateurs de satellites l'avaient été sur la base des objectifs initiaux. Et d'un point de vue rapport entre masse lancée et masse satellisée, après allumage et perte des étages successifs, seul 1,35% de la masse de départ se trouve sur orbite. Ce rapport est de 2,8% avec une Ariane 4. La raison ? La navette embarque des passagers et les exigences de sécurité font grimper la complexité et le poids des systèmes embarqués. Aussi, la navette n'était pas la bonne réponse pour la mise sur orbite de satellite. Mais par contre, elle a permis d'avoir le premier satellite humain. Tous les cosmonautes et astronautes effectuant une sortie extravéhiculaire sont reliés par un cordon ombilical à leur vaisseau, ce qui évidemment limite la distance à laquelle ils peuvent s'éloigner. Pour s'affranchir de cette contrainte, les Américains testent le 7 février 1984 un véhicule propulsif autonome, le MMU, sorte de fauteuil muni de 24 propulseurs, et Bruce McCandless déplace librement dans l'espace. La photo de cet astronaute, flottant à une centaine de mètres autour de la navette, isolé au milieu du vide spatial à 300 km au-dessus de la Terre, et volant à 28 000 km/h, sera élue photo du siècle par un jury de photographes spécialisés. Bruce McCandless est décédé le 21 décembre 2017 à l'âge de 80 ans. À noter que ce type de véhicule est entièrement autonome et ne sera utilisé que 2 autres fois pour récupérer des satellites, car jugé vraiment trop risqué par la NASA. Puisqu'on parle de risque, il faut que l'on parle des accidents des navettes américaines. Le programme de navette a payé un très lourd tribut à la conquête de l'espace. Le 28 janvier 1986, à 16h28, pour le 25e vol d'une navette, Challenger décolle de Cap Canaveral. Sa mission est d'aller mettre sur orbite le satellite de communication TDRS et de traquer la comète Halley. Mais après 73 secondes de vol, elle explose sous les yeux de personnes présentes sur le site et des millions de téléspectateurs qui continuent à suivre cette aventure à la télévision. Alors que les applaudissements qui saluent le décollage continuent, après quelques secondes de totale incrédulité, l'horreur de la situation est comprise par la foule. Cette tragédie en direct est vécue comme un traumatisme par tout le peuple américain et par tous ceux qui suivent les exploits de ces aventuriers des temps modernes. Retardé à cause de conditions météo défavorables, le lancement a lieu malgré un froid intense sur la base, moins 13 degrés. Un joint cède sur un booster, moins d'une minute après le décollage, et une flamme, pointée par malheur vers le réservoir principal, va le faire exploser, entraînant la désintégration du vaisseau et la mort de ses 7 occupants en un peu plus d'une seconde. Pour l'histoire, c'était la première fois qu'une non-astronaute embarquait sur un vaisseau spatial, l'institutrice Christa McAuliffe, qui devait donner, depuis la navette, des cours aux écoliers américains. Cette enseignante avait été sélectionnée parmi les 11 146 enseignants volontaires. Des milliers d'écoliers américains étaient devant leur télévision pour regarder le décollage. Et ils ont assisté en direct à cette tragédie qui a bouleversé le monde entier. Il est à noter que suite à cet accident, l'opinion publique américaine n'a pas déclaré « L'espace, c'est trop risqué, stoppons tout ». Au contraire, il a été considéré que l'abandon du programme spatial trahirait la mémoire des astronautes disparus. Les vols de navettes avaient alors été interrompus pendant 3 ans. Ce que révélera la commission d'enquête est terrible. Les techniciens du fabricant des boosters avaient prévenu du risque de détérioration des joints en cas de grand froid. Mais la NASA n'en a pas tenu compte, pour des questions de publicité et de communication. Et ces joints avaient posé des problèmes sur 12 des 24 vols de navettes précédents. La navette subira 56 modifications majeures et 400 mineurs pour un coût de 2,4 milliards de dollars. Pour remplacer Challenger, la NASA fit construire une 5e navette, Endeavour, qui volera en 92, et plus aucun civil n'embarquera sur une navette. Cette catastrophe était évidemment a priori imprévisible, mais l'ancien astronaute Bill Nelson avait fait le calcul suivant. Avec une fiabilité de 98%, il y a 50% de risque de perdre une navette lors des 34 prochains vols et 88% d'en perdre une avant que la station Freedom ne soit entièrement assemblée. Le deuxième accident de navette aura lieu beaucoup plus haut. Columbia se désintègre le 1er février 2003 en rentrant dans l'atmosphère, tuant là aussi ses 7 passagers, dont Ilan Ramon, le premier astronaute israélien. Un morceau d'isolant s'était détaché lors du décollage, le 16 janvier 2003, abîmant une partie des 31 000 tuiles de la protection thermique. Lors de sa rentrée, à Mach 24, et les 1500 degrés résultant de la friction sur l'atmosphère environnant rongent la structure et l'aile se disloque. Ce problème sur les tuiles de protection était connu depuis le premier vol de navette, les 16 tuiles ayant été découvertes manquantes lors du vol inaugural de Columbia. Après cet accident, la NASA, pour les navettes rejoignant la Station Spatiale Internationale, faisait inspecter par les occupants de la station le ventre de la navette afin de détecter une éventuelle anomalie dans le bouclier thermique. Si besoin, une réparation aurait été menée sur orbite. Le programme de la fragilité des briques thermiques était connu dès le début du programme. Certaines s'étaient lézardées lors des essais en laboratoire ou décollées lors de la navette sur le dos du Boeing 747 qui lui servait de moyen de transport entre les différentes usines et le site de lancement. Ce deuxième drame signa, peu après l'arrêt des vols de la navette, les risques devant infiniment supérieurs aux bénéfices. Il n'y aura que 135 vols de navettes. Si l'on ramenait le pourcentage d'échecs de la navette aux vols commerciaux des seuls avions de ligne américains, on arriverait à 500 crashs par jour. Vous voyez, c'est absolument monstrueux. Lors des vols de maintenance de Hubble, la NASA avait imaginé qu'en cas de gros dégâts sur les tuiles d'une navette, une autre serait renvoyée pour rechercher les astronautes, le transfert entre les deux navettes étant assuré par le bras de manipulation Canada. Évidemment, les Soviétiques ne sont pas restés là non plus les bras croisés. Ils mettent en vol le 15 novembre 88 leur navette spatiale, Buran, tempête de neige en russe, lancée par la fusée géante Energia. Elle ne fera qu'un seul vol, sans équipage, en mode automatique. Après deux révolutions et un essai raté de lancement de satellites militaires, Buran se posera pour ne plus jamais repartir. Elle sera exposée au Salon du Bourget de 1989, portée par le plus grand avion de transport du monde, l'exaréacteur Antonov 225 Mirya, rêve en russe, capable d'emporter 250 tonnes de fret. Et cet avion atypique n'a été construit qu'en un seul exemplaire pour les besoins de Buran. Mais Russes et Américains ne sont pas les seuls à avoir des projets de navettes. Dès 1980, le Royaume-Uni lance le projet d'un avion stratosphérique réutilisable, HOTOL, Horizontal Takeoff and Landing, lanceur mono-étage propulsé par un moteur fusée unique. Mais ce projet sera abandonné en 1990. À l'instar des États-Unis, l'Europe se lance dans un projet de construction d'une navette spatiale destinée à desservir la Station Spatiale Internationale à laquelle l'Europe participe. Ce sera le projet Hermès avec comme chef de file Dassault Aviation, dont le premier exemplaire, des deux exemplaires, aurait dû voler en mode automatique en juin 1997, puis en avril 1998 avec un équipage. Mais ce bel élan ne survivra pas aux coupes budgétaires imposées à l'ESA par les États. Et le projet fut stoppé en novembre 1992. Devant les coûts faramineux des vols dans l'espace, les coûts du développement et de l'exploitation des stations spatiales, il était devenu évident qu'aucune nation ne pouvait continuer à financer seule une station plus performante que Salyut ou Skylab. Aussi, le président des États-Unis, Ronald Reagan, annonce le 25 janvier 1984 le lancement du programme de station spatiale qui sera baptisé Freedom, Liberté, pour un coût estimé de 8 milliards de dollars. Il propose au reste du monde de coopérer ensemble à l'établissement de cette base, en orbite basse, chacun prenant sa part à la construction et à son entretien, pour un montant supplémentaire d'un 5 milliards de dollars. Et l'ensemble de la communauté scientifique récoltant, gratuitement, donc, le fruit des recherches menées en orbite. 6 sociétés aéronautiques américaines déposent chacune un projet de station, toutes basées sur le même principe, l'assemblage au fil du temps de modules apportés par les navettes spatiales américaines. Dès 1985, l'Europe, le Japon et le Canada se joindront aux USA, ainsi que la Russie en 1993. Les Européens fourniront entre autres le module Columbus et les Canadiens le bras manipulateur Canadarm. Et pour préparer tout ça, le 25 juillet 1995, une navette américaine Atlantis s'amarre pour la première fois à la station russe Mir, ouvrant la voie à 8 autres missions communes, préfigurant ce qui allait devenir le mécano de l'espace, l'ISS.
Alors, nous allons faire une autre pause musicale après ce voyage spatial enivrant. On va écouter Gustav Holst. Le titre, c'est Jupiter, et on se retrouve juste après. Thank you. Allez, on revient tout droit de Jupiter, puisqu'on voyage dans cette émission. Alors, la question. Et l'ISS, dont est revenu fin 2018 Thomas Pesquet, ça correspond à quoi exactement?
Donc, comme on vient de le voir, l'ISS est un programme international, mondial. C'est le 6 décembre 1998 que la jonction des deux premiers modules de l'ISS, le module russe Zarya, chargé de la propulsion et de la production d'énergie, qui a été lancé le 20 novembre par une fusée Proton, et le module américain Unity, amené par la navette Endeavour, pose la première pierre de l'ISS. Elle sera habitable en septembre 2000. 47 missions d'assemblage seront nécessaires pour apporter les éléments de ce gigantesque mécano de l'espace, qui durera 10 ans, le montage, demandant 850 heures de sortie dans l'espace par les astronautes. Cette station est actuellement aussi vaste qu'un terrain de football, de dimensions gigantesques par rapport à l'étroitesse des capsules spatiales, un volume de 450 mètres cubes et elle pèse 500 tonnes. Elle peut abriter jusqu'à 6 personnes, dans différents modules d'habitation et de recherche. Elle aboure un observatoire à 360 degrés, la Cupola, fourni par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, permet aux astronautes des vues extraordinaires sur la Terre et le ciel, et la réalisation de magnifiques photos. Mais elle sert aussi à surveiller les manœuvres d'approche et de jonctionnement des différents engins qui rejoignent la station. Le coût de la construction a été estimé en 2011 entre 60 et 100 milliards de dollars. 15 modules scientifiques sont attachés aux nœuds qui servent de base vie. Les navettes US, on l'a vu, s'y amarreront 37 fois avant leur arrêt définitif. Le laboratoire européen Columbus a été installé sur l'ISS en février 2018 et à fin 2017, il avait accompli près de 59 000 orbites, accueilli 13 astronautes de l'ESA et conduit pas loin de 1 800 expériences dans différents domaines scientifiques ou biologiques. L'astronaute américaine Peggy Wilson sera la première femme américaine commandant de l'ISS. Et le 18 octobre 2019 a vu la première sortie extravéhiculaire 100% féminine avec les américaines Christina Koch et Jessica Meir. Sortie qui avait dû être reportée quelque temps avant, l'ISS n'étant pas alors pourvue de deux combinaisons spatiales adaptées à la taille des astronautes femmes. À partir de 2011, la station a hébergé un androïde, Robonote. Le but était de lui confier des travaux à réaliser là où les risques pour les astronautes sont plus élevés, c'est-à-dire sur les flancs de la station. Mais les essais ne permettront pas d'en faire l'outil souhaité. Il sera rapatrié sur Terre en mai 2018. En septembre 2017, un nouvel occupant avait intégré lui aussi l'ISS. Il s'agit d'un robot de 15 cm cubes, sphérique, qui assiste les équipages en prenant des photos ou des vidéos. Développé par l'agence spatiale japonaise, l'Intbal, avait été fabriqué en impression 3D, sauf l'électronique évidemment. Il est piloté depuis le Japon et se déplace à l'aide de 12 hélices. Un autre robot, humanoïde celui-là, Fedor, développé par une société russe, NPO, a été livré dans l'ISS par la mission Soyuz M14 le 25 août 2019. Il devait valider la possibilité d'utiliser un robot pour remplacer l'homme dans certaines opérations à risque, là aussi, par exemple lors de sorties extravéhiculaires. Mais le robot n'a pas été à la hauteur. Il était empoté et incapable de se déplacer dans l'espace, ce qui a conduit les Russes à le remiser, puis à le ramener sur Terre. À deux reprises, les occupants de l'ISS ont eu le privilège d'être en conférence avec un souverain pontife. Tout d'abord avec Benoît XVI, en mai 2011, puis en octobre 2017 avec le pape François. Dans les deux cas, l'astronaute italien Paolo Nespoli faisait partie des équipages de l'ISS. La station a été complétée en 2017 par un module japonais, Nuka, et un bras télémanipulateur européen. Une expérience de mini-ascenseur spatial va être installée sur l'ISS. Une société japonaise va y déployer deux mini-satellites de 10 cm de côté, reliés par un câble de 10 mètres de long, le long duquel l'ascenseur progressera. L'ISS est prévu pour fonctionner jusqu'en 2024, voire 2028. Après cette période étatique, il est envisagé une utilisation commerciale pour la production de matériaux dans l'espace ou pour les recherches médicales. Ceci permettant d'amortir un outil qui a déjà coûté près de 30 milliards de dollars. Et en juin 2019, la NASA a annoncé que l'ISS serait ouverte à une dizaine ou une douzaine de touristes à la fois dès 2020. Le billet, pas donné, 58 millions de dollars, donnant droit à un séjour de 30 jours. Ça, c'était pour le transport. Il faut ajouter, pour la vie, pour le service, 35 000 dollars par jour. Ces heureux et milliardaires passagers seraient transportés par les vaisseaux Crew Dragon de SpaceX ou Starliner de Boeing. Les Chinois prévoient, eux, la relève de l'ISS par la construction d'une nouvelle station qui est programmée pour 2022. Au premier module du laboratoire Tiangong 2, lancé en 2016, a été arrimé en 2017 d'une façon automatique le cargo Tianzhou 1, bateau céleste, suivi des ravitaillements en ergol de la station. Puis viendra fin 2019, donc très bientôt, un module central de 20 tonnes, Tianhe, Harmonie Céleste, dont la Chine prévoit l'habitation permanente à partir de 2020-2021. Dans le cadre du financement de l'ISS, l'Europe s'est engagée à la fabrication et au lancement de vaisseaux automatiques ravitailleurs, les ATV, Automatic Transfer Véhicule, capables de transporter près de 8 tonnes de fret. Le premier ATV-01 s'amarre à la station le 9 avril 2008. Après avoir déchargé sa précieuse cargaison, ce cargo, chargé de déchets récupérés dans la station, est désorbité et brûle lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Oui. Il y aura en tout 5 vols d'ATV, 4 autres baptisés de noms scientifiques anglais, italien, européen et français, dont Georges Lemaître, l'astronome belge, le théoricien du Big Bang. Le Japon envoie aussi des cargos ravitailleurs HTV, Konoturi, vers l'ISS. Voilà pour cette émission. Nous nous retrouverons le 15 janvier 2020 pour l'émission numéro 15, où nous poursuivrons notre entretien avec Bruno Bigand, ingénieur navigant d'essai chez Airbus Avions. Cette émission sera rediffusée le jeudi 26 décembre à 15h. Si vous avez des questions relatives à cette émission ou à celles qui les ont précédées, vous pouvez les envoyer sur le site Facebook de l'émission. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël.
Évidemment, retrouvez toutes les émissions précédentes de Jean-Jacques Ibos, de son émission donc Espace Horizon Inaccessible, sur le site fréquencemistral.com.